talmudique. Catherine Chalet, bonjour.
Bonjour.
C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre notre conversation autour de la question de l'image. Nous avons abordé la semaine dernière la question de l'image dans la tradition juive. Nous avons montré à quel point l'idée de l'interdit de la représentation était une formule qui nécessitait d'être commentée, modulée, et que ce n'était pas tant l'image qui était interdite, mais notre rapport à l'image. Comme le rappelle Stéphane Moses, commentant une note du journal de Franz Rosenzweig de 1922, l'homme existe en symbolisant, posant entre lui et le monde des symboles par lesquels il donne sens au monde et aux objets et aux êtres qui l'entourent. Mais symboliser, dit-il, c'est s'exposer au danger de prendre le signe pour le sens. Échapper à l'idolâtrie, ce n'est donc pas renoncer au signe, ce qui est impossible, c'est être conscient de leur ambiguïté, c'est savoir que l'infini est toujours au-delà des signes. De ce point de vue, il faut comprendre que l'idole n'est pas un objet ou une image, mais une fonction. Ainsi, tout objet, toute image peut devenir idole. C'est l'attitude devant le signe ou le symbole qui le constitue ou non en idole. Il y a une question très importante que vous abordez dans votre ouvrage, l'appel des images, Catherine Chalier, et qui est essentielle, me semble-t-il, à l'art contemporain et à tout art en général. Il s'agit de la question des mots qui accompagne les images. L'inflation des mots, dites-vous, est solidaire de l'inflation des images. Il faut du silence pour écouter les images. Est-ce une façon d'échapper à l'idolâtrie de l'image que je viens d'évoquer chez Rosenzweig, Catherine Chalier?
Je ne sais pas, parce que voilà, l'inflation des images dont nous parlons très souvent aujourd'hui, souvent, elle ne nous laisse même pas le temps de parler, que déjà, il y a une autre image qui arrive. Et on sait très bien que beaucoup de ces images qui nous sont montrées sont subordonnées à des projets précis, des visées précises qui parfois n'ont strictement d'ailleurs aucun rapport avec l'image en question. Et en fait... Cela touche en nous notre psychisme, et notre psychisme, il est d'ores et déjà habité par des images. Donc, en particulier, dans l'Europe occidentale, parce que c'est un peu différent dans l'Europe orientale, dans l'Europe occidentale, nous avons, que nous soyons croyants ou pas du tout, nous avons été, dans l'art, puisqu'il s'agit de l'art, marqués par l'art chrétien. Et dans l'art chrétien, il y a le visage de l'être humain, mais en particulier, beaucoup, le visage des crucifixions, c'est-à-dire de la souffrance, et parfois d'une souffrance qui est présente avec beaucoup de détails terribles. Et je pense que ça, ces images de la souffrance, donc divine en l'occurrence, la souffrance de Jésus, elles ont été aussi commentées. Qui avait causé cette souffrance? Qu'est-ce que ça signifiait, etc. Bon, et je crois que lorsque nous voyons aujourd'hui des images de la souffrance, je ne parle plus de l'art et de la crucifixion, lorsque nous voyons des images de la souffrance, notre sentiment premier, c'est d'aller justement vers la victime de cette souffrance. Et je comprends ça fort bien, bien entendu. Mais est-ce que ça nous permet de comprendre quoi que ce soit? C'est pas sûr du tout. C'est absolument pas sûr du tout. Alors, c'est pas forcément les mots qui accompagnent qui nous aident. Au contraire, ils sont souvent subordonnés à cette vision des choses. Mais parfois, c'est l'image qui nous aide et qui nous aide à percevoir que ce qui se passe n'est pas tout à fait exactement comme nous le disons. Et donc, il y a une espèce de dialectique possible, si j'ose employer ce mot, entre les mots et l'image. Elles ne sont pas toujours en adéquation. Donc voilà, ça c'est une dimension que j'aimerais dire. Et puis ensuite, en ce qui concerne ce flot des images continu, moi je suis très sensible au fait que beaucoup de gens se photographient eux-mêmes sans cesse, photographie les autres sans cesse et envoie ces photos, et je me demande de quoi ils cherchent à se persuader. Est-ce que je suis bien celui que tu vois? Et bien sûr, c'est non, parce que ça ne peut être que non, parce que nous ne sommes jamais cela que nous envoyons aux autres pour qu'ils nous admirent. Et il y a quelque chose de pathétique dans cette attitude.
Alors il y a quelque chose de pathétique. Alors, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit avant parce que je crois que c'est vraiment très très important. Vous voulez dire que l'image que nous avons du monde, que nous recevons du monde, est informée par l'histoire de l'art, où l'image de la souffrance est, désigne déjà, dit déjà certaines choses qu'on va plaquer sur les images de la souffrance que l'on voit aujourd'hui, alors que ces images de souffrance que l'on voit aujourd'hui ne parlent pas du tout de la même chose. C'est ça que vous dites.
Elles ne parlent pas du tout de la même chose, mais elles sont vues souvent, à tort, dans un même sentiment de pitié pour la douleur et d'accusation. Et c'est surtout qu'on ait pitié pour la douleur, je le conçois très très bien, bien entendu. Mais c'est surtout que c'est souvent en lien avec un discours, moi ça me frappe quand on écoute n'importe quelle information, un discours accusateur. Ça va tout le temps de pair avec un discours accusateur. Et au fond, qui est-on pour accuser comme ça?
Alors, je laisse la question ouverte, mais je pense que ce que vous venez de dire est extrêmement profond. Je voudrais revenir sur la deuxième remarque que vous avez faite, parce qu'elle me fait penser à un livre de Judith Emendinger qui s'appelle « Les enfants de Buchenwald ». Elle remarquait que elle était assistante sociale et après la guerre, elle a reçu les enfants du Buchenwald, des jeunes, dans une maison de Lausée. Et un après-midi, raconte-t-elle, elle s'aperçoit que la maison de Lausée est vide, il n'y a plus d'enfants, tous les enfants sont partis. Alors ils appellent la police pour aller rechercher les enfants et ils les retrouvent au village d'à côté et ils sont tous chez le photographe en train de se faire des photos, tirer le portrait, si on veut dire, de se faire des photos d'identité. Et elle dit quelque chose qui me semble très important, c'est que ces enfants avaient perdu le sentiment de leur visage, le sentiment de leur identité. Robert Antelme raconte un épisode un peu identique, aussi, justement à Buchenwald, où le dimanche après-midi, les prisonniers faisaient la file devant un miroir pour pouvoir se regarder. Donc je pense que cette pulsion à laquelle on assiste actuellement de cette démultiplication de l'image de soi que l'on prend en permanence, au point que ça s'appelle le selfie, hein, vous imaginez, c'est-à-dire le self, le soi, est peut-être le signe d'une grande détresse, je dirais, identitaire, c'est-à-dire que nous sommes peut-être dans un monde où nous n'avons plus les outils pour comprendre notre propre moi, notre propre définition. C'est un symptôme qui est un symptôme alarmant qu'il faut entendre.
Oui, je trouve ça, je suis d'accord avec vous. C'est une quête un peu désespérée, comme si on allait en effet arriver à ressembler à celui-ci ou à celle-là et en convaincre les autres. Mais on sait bien que c'est pas vrai. Bon, voilà. Alors, peut-être aussi qu'il faudrait, puisque vous avez prononcé le mot, arrêter de se crisper sur le mot identité. Je veux dire, c'est quoi une identité? Je veux dire, c'est un mouvement, c'est une vie. Je ne vois pas mon identité. Je réponds à un appel. Moi, je suis vraiment très réservée sur l'emploi de ce mot identité, qui est un mot qui fige, qui nous arrête. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit se perdre dans le neutre, dans le tohu-bohu, mais je crois que c'est pas justement. Je crois que c'est peut-être par peur de se perdre dans le neutre et dans le tohu-bohu que beaucoup de gens prennent tout le temps ces photos, c'est justement pour dire c'est moi, c'est moi, c'est moi, donc je ne suis pas dans le tohu-bohu et dans le grand neutre. Mais peut-être qu'il faudrait enseigner une autre façon de faire le chemin vers soi. Le soi, ce n'est pas quelque chose qui se voit, c'est quelque chose qui se vit, qui s'éprouve et qui est en mouvement et qui est réponse à un appel et qui est chaque jour à rejouer, si j'ose employer ce mot. Et donc, ce qui compte, c'est l'unicité de ce soi, comment il émerge de tout cela, de toutes ces images. L'identité, c'est très dans... L'identité est porteuse de violence, parce que l'identité, c'est dire toi, tu es ceci, et moi, je suis cela, donc c'est exclusif, et donc voilà. L'identité, soyons prudents sur ce mot.
Certes, mais il faut toujours se construire, avoir un sentiment de soi-même. Peut-être que ce qu'il manque aujourd'hui, et c'est pour cela que nombre de personnes se tournent vers l'image de soi, c'est la perte des outils de la construction de son soi, qui est de son jeu, si on peut dire, de ce anochi, qui peut dire je suis, qui veut dire aussi vertical. C'est pour cela, par exemple, que je pense toujours à cette formule de Lévinas qui dit l'homme n'est pas, l'homme devient, ce qui est presque une évidence, et à quoi Ricoeur répondait que effectivement, il faut en passer par la littérature, par exemple, par le récit. Il parle de l'identité narrative, c'est-à-dire avoir un récit de soi qui permet justement de suivre ce devenir pour ne pas l'enfermer dans une identité justement figée, comme vous le dites. Et peut-être que la question que je vous ai posée au début, à savoir cette relation entre image et mots, c'est peut-être parce que nous n'avons plus les mots pour nous dire que nous sombrons dans le mythe et dans le mirage de l'image de soi. Catherine Chalier.
Oui, peut-être parce que nous n'avons pas les mots pour le dire, et peut-être aussi, et je pense, parce que nous n'écoutons pas suffisamment. Parce que pour parler véritablement, il faut d'abord écouter, et c'est aussi entre autres le rôle des parents d'écouter leurs enfants plutôt que de leur donner une tablette dès l'âge de 3 ans. Et donc écouter, donner des mots, accompagner, tout cela est extrêmement important, et se dessaisir de ces images qui nous accompagnent sans cesse.
On vient de parler des mots et de l'image, de la nécessité parfois de se défaire des mots qui ont accompagné les images pour entendre les images de manière neuve, mais parfois des images qui pourraient témoigner d'une réalité sont détournées, non par le discours mais qui leur est ajouté, mais par le silence qui les accompagne. Vous citez l'exemple de la photo du petit garçon de Varsovie avec sa casquette et ses bras levés, Catherine Chalier.
Oui, donc c'est une photo célèbre, je pense que chacun la visualise même s'il l'a pas sous les yeux, du petit garçon qui lève ses bras et donc dans ce ghetto, et donc les soldats allemands qui rient, qui rigolent, faudrait dire même, qui sont assez fiers de ce qu'ils sont en train de faire. Bon. Et qui a été retrouvée dans des archives, justement, parce qu'elle a été gardée. Cette image, ensuite, elle a eu une destinée assez étonnante, parce qu'ensuite, elle a été complètement déconnectée de cet épisode historique et de ce qu'elle visait à montrer à l'époque. Et elle a été d'abord utilisée pour parler justement de la souffrance de l'enfant en général, de la souffrance de la victime en général, donc de toute victime indépendamment. Et elle est même aussi utilisée de façon idéologique et perverse, selon moi, par exemple, dans le conflit israélo-palestinien, pour affirmer que maintenant les rôles sont inversés. Donc vous voyez comment une même image peut être totalement déconnectée de la mémoire qu'elle visait à préserver, et puis être mise au service de causes idéologiques qui lui font absolument perdre tout son poids, mais qui ont un efficace. Ça je suis bien consciente de ça.
Ce qui rejoint l'idée de la mémoire de l'image que vous avez évoquée au début sur la souffrance des images christiques en Occident et dans l'art chrétien.
הכתיבה היא תהליך ארוך של היזכרות. זה לא עניין של זיכרון, אלא היזכרות איטית. אתה שואב מתוך עצמך מראות ילדות, פרטים קטנים כאלה שזוהרים, שהאירו את חייך כשהיית ילד. זה ביסוד כל יצירה. עיני הילד, מה ראה הילד כשהוא היה ילד. לאחר מכן, באיזשהו אופן, הראייה שלנו מתקלקלת במרכאות. היא מתקלקלת מפני שנכנסים אלמנטים מחשבתיים, רציונליסטיים, כל מיני דברים שמקלקלים את הראייה הראשונה שיש לילד. חשוב שכל אומן ישמור בתוכו את הילד. ברגע שהוא מאבד את הילד, הוא יהיה היסטוריון, הוא יהיה פילוסוף, הוא יהיה אנתרופולוג, הוא לא יהיה אומן. וכן, זה תהליך ארוך שאתה בילדות נגלו לך.
Nous venons d'entendre la voix si douce et si sereine d'Aaron Appelfeld, accompagné en fond par l'automne de Tchaïkovski, joué ici par Lang Lang. Aaron Appelfeld, cet immense écrivain de langue hébraïque, avec son hébreu à la fois si simple et si précis, qui nous a quittés le 4 janvier dernier à l'âge de 85 ans. Sa voix nous manquera, même si nous avons ses livres. Aaron Appelfeld, qui, dans l'extrait que nous venons d'entendre, parle de l'écriture qui puise dans le regard de l'enfant. Seul celui qui garde son regard d'enfant peut être un artiste, dit-il. Aaron Appelfeld, que vous évoquez dans votre livre, Catherine Chalier, justement à propos du regard. « Nous n'avons pas vu Dieu dans les camps », écrit Appelfeld, « mais nous avons vu les justes. » La vieille légende juive qui dit que le monde repose sur une poignée de justes était vraie alors, comme elle l'est aujourd'hui. Catherine Chalier, qu'est-ce qu'un regard juste et un regard de juste ?
Je crois que la meilleure explication que j'ai trouvée, c'est celle que donne Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, qui était un grand rabbin d'obédience aussi chassidique, et qui dit ceci: la lumière du premier jour a été cachée. Et cette lumière, c'était une lumière qui permettait de voir jusqu'aux extrémités du monde, et Dieu l'aurait cachée parce qu'il aurait perçu aussi que les êtres humains se conduiraient pas toujours très bien. Et puis ensuite, donc, il y a la lumière des astres, etc. Mais en même temps, il dit, elle est cachée, il y a une étincelle de cette lumière du premier jour dans chaque être humain, chaque être humain. Et cette étincelle, elle est là, et c'est lorsque Dieu scande tout ce chapitre 1 de la Genèse par « c'était bon » et avec l'homme « c'était très bon », quand il dit « c'était très bon », c'est justement, non pas du tout que l'homme était un être bon par nature, ça en aucune façon, c'est pas du tout ça qu'il dit, mais ce qui est bon, c'est que cette lumière du premier jour l'habite, même s'il le sait pas, même s'il l'a oublié, même s'il l'a recouvert par un monceau d'ignominie, elle est là. Et Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin dit « le regard du juste » c'est celui qui perçoit cette lumière dans le visage des autres. Et celui-là, c'est injuste. C'est-à-dire, il perçoit que même si la personne est dans la déréliction la plus totale, ou, à Dieu ne plaise, dans la malfaisance la plus totale, cette lumière doit l'habiter. Et donc, nous ne sommes pas, en ce sens, dans un monde diabolique.
Mais c'est dangereux, parce que si vous voyez la lumière d'un juste, la lumière dans le visage d'un injuste, et vous voyez cette lumière...
Mais on la voit malmenée, on la voit maltraitée, on la voit martyrisée. Ça ne veut pas du tout dire qu'on approuve ce qu'il fait. Bien entendu, ça serait complètement ridicule. On la voit martyrisée, on la voit justement presque anéanti, mais presque seulement. Presque seulement, c'est-à-dire au fond qu'il y aurait toujours cette possibilité, peut-être au terme d'un long travail, d'un long chemin, quelque chose dans cet homme, dans cette femme, un jour change. Mais ça, c'est en aucune façon la justification de ces actes affreux. Et voir cette lumière dans les malheureux, est-ce que nous voyons cette lumière dans les malheureux? C'est une question extrêmement, extrêmement difficile. Notre regard n'est pas toujours un regard de juste, que je sache.
Et quand on voit cette lumière du premier jour dans le visage de l'autre, qu'est-ce que cela change de notre comportement, Catherine Chalier?
Qu'est-ce que cela change de notre comportement? Dans le premier cas, justement, si c'est le cas de quelqu'un qui a complètement enfoui au fond de lui cela, donc c'est dans la mesure du possible, mais c'est pas du tout toujours possible, peut-être justement contribuer à ce qu'il fasse un petit chemin, et que peut-être un jour il demande pardon, puisqu'on parlait du pardon aussi lors de la dernière émission, peut-être, je ne sais pas. Et pour d'autres personnes, d'abord même au niveau de l'éducation, au niveau des enfants, puisque Aaron Appelfer nous parlait du regard de l'enfant, eh bien c'est justement lui donner cette confiance qu'elle l'habite, et que quelles que soient les difficultés, les souffrances et peut-être les malheurs qui vont lui arriver, cette lumière là l'habite, et donc ça me semble justement très important. Et si on veut faire un lien entre cette réflexion avec ce que Lévinas dit du visage, je pense que c'est tout à fait possible, même si Lévinas ne cite pas du tout Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin. Lévinas dit, lorsque nous percevons un visage, nous ne le voyons pas au sens avec nos yeux, mais nous entendons son appel à notre responsabilité, son appel qui nous dit justement de faire tout pour qu'il vive. J'aime bien le prendre dans un sens positif, de faire tout pour qu'il vive. Et je pense que c'est la même idée exprimée de façon tout à fait différente. Dernier point par rapport au petit extrait qu'on a entendu d'Aaron Appelfeld, quand il dit que les philosophes, justement, donc, ils ont perdu leur regard d'enfant, j'espère que non.
Oui.
J'espère que non. Et je pense que ça peut arriver, bien sûr.
Je pense qu'il veut dire les philosophes du concept, pas les philosophes du visage.
Non, les philosophes, ils se servent du concept, mais c'est pas le concept aussi peut être une idole. Et,
oui, c'est et ça, c'est un concept au sens de l'idéologie que l'on a dénoncée.
Mais
je pense en vous écoutant à cette phrase que Lévinas cite souvent en citant Max Picard, le visage de l'autre homme est la preuve de l'existence de Dieu. C'est-à-dire cette lumière qui est aussi une façon pour l'homme qui l'aperçoit chez l'autre ou qui l'aperçoit chez lui-même, une façon d'avoir confiance en soi. Alors le regard du juste introduit une dimension éthique dans la question des images. Cela nous invite aussi à distinguer peut-être une image juste d'une image injuste, ou encore la bonne et la mauvaise image. Quels pourraient être les critères de cette distinction? Je pense à cet épisode dans un documentaire qui s'appelle « Les combattants de l'ombre », où une femme, voyant que lors d'une distribution de pain aux civils, les Allemands se filment, elle comprend que ce pain donné est une forme de vie volée. Elle entre immédiatement dans la résistance, elle comprend qu'une mauvaise image est en train d'être fabriquée, une image de propagande, une façon de tordre la liberté à l'image en l'enfermant dans un mensonge, Catherine Chalier.
Oui, mais en même temps, ces images de propagande, elles sont très séduisantes. Il se trouve que la semaine dernière, j'étais à Londres, où entre autres choses, j'ai vu une exposition à la New Tate Gallery sur les images de propagande de l'Union soviétique, enfin au début, enfin la période de Lénine et puis Staline, et c'est tout à fait fascinant, c'est le cas de le dire. Comment on peut être pris par ces images? Je me disais, oui, moi je comprends qu'on suive ces images, le regard clair, droit devant soi, on va vers... Bon, et ça peut tout à fait marcher. Et donc, toute la part de malheur extrême qui accompagne ça se trouve tout à fait dans l'ombre ou tout à fait justifiée. Il y a une grande force de ces images de propagande. Il se trouve que je pensais en les regardant, au fond, je comprends qu'on les suive. Donc, on doit faire vraiment un travail sur soi pour résister à cette énergie qu'elles sont censées transmettre avec, comme ça, bon, des visages qui sont pleins d'allant vers l'avenir et qui va être à Dieu, bien entendu.
Alors, comment on fait pour se défaire de ces images, de cette fascination? Est-ce que l'éducation de l'image n'est pas absolument première, centrale? Est-ce que ça ne fait pas partie, justement, de ce que fait d'ailleurs l'école aujourd'hui? Les enseignants, pour une grande part, font une éducation à l'image pour empêcher que les enfants et nous, adultes, par la suite, sombrons dans cette fascination?
Oui, mais là, je pense que c'est le recours aux mots, M-O-E-T-S, est bien sûr extrêmement important et de montrer comment, justement, c'est de décrypter ces images, et c'est quand même faisable, bien entendu, comment ces images nous leurrent, elles nous séduisent et elles nous leurrent. Les deux vont tout à fait de pair, et donc de donner à des enfants et aux adultes aussi des outils pour les comprendre, ça me semble tout à fait important.
On pourrait presque dire que dès qu'une image nous séduit, il faut se poser la question de la possibilité de la défaire, de son pouvoir de séduction. Alors, dans votre livre, justement, vous consacrez de nombreuses pages à l'œuvre de Rothko. Comment cette œuvre nous appelle particulièrement pour poursuivre cette idée du rapport entre image juste et non idolâtre? Peut-on dire toujours avec Rosenzweig et Moses que j'ai cité au début, que face à l'œuvre d'art, comme à l'ensemble de l'univers des signes, la non-idolâtrie serait sans doute ceci, voir le monde comme un texte à la fois lumineux et énigmatique, source en même temps de révélations et de mystères, visible et invisible, ouvert à l'infini des interprétations. Catherine Chalier.
Donc, dans ces pages sur Rothko, en effet, Rothko, il a écrit aussi sur son œuvre, donc c'est tout à fait important. Donc, von Rothko, toute sa vie, d'après ce qu'il dit lui-même, bon, il est dans la quête justement de l'unité, la quête de l'unité, et il avance. Alors, l'unité, un peu comme j'ai défini Tselem, l'image de Dieu en nous, c'est-à-dire l'unité entre notre esprit, nos sens, notre corps. Il cherche cela dans la peinture, et il donne d'ailleurs des exemples, selon lui, où cela serait advenu, en particulier à la période de la Renaissance, où il cherche ça dans cette peinture. Mais il cherche aussi une unité qui serait l'unité ultime. Et dans sa peinture, que je suppose peut-être certains auditeurs connaissent, il va progressivement renoncer donc à toute représentation, et ça sera des tableaux de lumière, comme j'ai dit, des tableaux de lumière, et de couleurs qui font que notre regard ne peut pas reconnaître quoi que ce soit. D'ailleurs, il n'y a souvent pas de titre à ces tableaux, mais en même temps, le regard est appelé par la force de ces tableaux, il est appelé vers cette unité ultime vers laquelle Rothko a voulu aller. Il dit lui-même qu'il cherche la terre promise, c'est une expression qu'il emploie, mais voilà, il va, comme Moïse, jusqu'au bord de la terre promise, et peut-être qu'il ne faut pas aller plus loin. Peut-être qu'il ne faut pas aller plus loin, car vouloir aller plus loin, vouloir aller rejoindre complètement cette unité est impossible pour un être humain. On ne peut pas continuer à vivre et puis vouloir connaître cette unité. Donc, à tort ou à raison, c'est au lecteur d'en décider. Dans le livre, je fais un rapport entre certaines mystiques, comme celle du rabbi de Meseritch, Maguide de Meseritch, mais on pourrait voir d'autres types de mystiques, où le Maguide de Meseritch pense cette unité ultime comme ce qu'il appelle le néant, avec le néant ne voulant pas dire du tout rien, mais justement la plénitude absolue, et c'est aussi bien pour Rothko que pour Rabbi de Meseritch et puis beaucoup d'autres, la lumière qui nous donne ce sens de l'unité. Mais voilà, et on ne peut pas regarder cette lumière complètement en face. Si on regarde cette lumière complètement en face, on va se perdre. Et donc, peut-être faut-il rester à regarder la terre promise.
Merci Catherine Chalier pour ces 2 semaines de riches et belles conversations autour de la question des images, de l'imaginaire et de la représentation qui donne non seulement envie de vous lire mais de découvrir les œuvres dont vous venez de nous parler en nous suggérant de rester à la frontière de cette terre promise. Je rappelle le titre de votre ouvrage absolument passionnant, L'appel des images, paru chez Actes Sud. Je signale aussi votre autre ouvrage qui vient de paraître et dont nous avons parlé la semaine dernière et cette semaine, Mémoire et pardon, aux éditions François Bourin. Merci encore Catherine Chalier.
Merci à vous, Marc-Alain Wachnin.
C'était Talmudic, une émission de Marc-Alain Wachnin et Françoise-Anne Ménager. À la prise de son aujourd'hui, Stéphane Touvenin. À la réalisation, comme chaque semaine, Dany Journaud. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques concernant notre invité sur le site de l'émission que vous pouvez réécouter, podcaster et partager. Kol Touv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.